Secrétaire général de l'Élysée, il aide Macron, enfin comme un secrétaire qui fait tout le travail en sous-main, enfin qui est au courant de presque tout, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour mieux comprendre notre époque en décortiquant ces mots, ces expressions, ces titres qui reviennent souvent dans l'actu, mais dont on ne sait pas toujours à quoi ils correspondent exactement. Et aujourd'hui, Cyril, notre rédacteur en chef, est doublement ému. D'abord, bien sûr, parce qu'il savoure la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Sébastien Lecornu qui, en 2017, fut directeur adjoint de la campagne présidentielle de son idole, François Fillon, injustement écarté de la vie politique par une institution judiciaire gangrénée par le communisme. Il faut le rappeler. Deuxièmement, Cyril est ému car on va zoomer aujourd'hui sur un métier de l'ombre, un peu comme le sien d'ailleurs, mais avec encore plus de pouvoir et au service de la République. C'est pourquoi ce matin, il a tenu à nous accueillir dans l'open space au son de la Marseillaise. En raison de coupes budgétaires à Radio France, il a interprété lui-même à la flûte à bec que Thomas VDB avait laissé dans un tiroir en quittant Inter. Il y avait encore de la bave de gauchiste dessus, mais peu importe, Cyril a joué l'intégralité des 28 mesures de notre hymne national. Un moment un peu long, puisqu'on devait rester debout la main sur le cœur et qu'avant de rejoindre son poste, chaque membre de l'équipe a dû déposer un baiser sur le poster de Jacques Chirac qui trône au-dessus du bureau de Cyril.
C'est
et ça,
vrai.
C'est vrai.
Ça, c'est fou,
ce n'est qu'à l'issue de ce cérémonial qu'on a appris qu'aujourd'hui on allait zoomer sur le poste de secrétaire général de l'Élysée. On dit de lui qu'il est l'homme le mieux informé de France, le plus puissant aussi peut-être avec le président, et pourtant il n'est ni élu, ni très visible dans les médias. Alors quel est le véritable rôle de secrétaire général de l'Élysée? Pour le savoir, et bien on a décidé d'inviter quelqu'un qui l'a été pendant 4 ans. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Jean-Pierre Jouyet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État, un des plus beaux CV de la République. Vous avez été directeur du Trésor, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ambassadeur de France au Royaume-Uni, secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. On va y revenir. Et secrétaire d'État aux affaires européennes sous Sarkozy, cette fonction-là, elle ne figure pas dans votre notice biographique en 4e de couve. C'est un simple oubli de l'éditeur ou...
Je pense que c'est un oubli, ce que je lui avais dit.
D'accord. Votre dernier livre, en tout cas, s'intitule « L'ombre du général de Gaulle et ses successeurs, qu'ont-ils fait de son héritage ?» Il vient de paraître aux éditions Albin Michel. On va parler du général de Gaulle et surtout de cette fonction que vous avez exercée qui nous intrigue tant, secrétaire général de l'Élysée. Juste le temps de vous présenter mes précieux collaborateurs. Leurs CV n'ont rien à envier aux vôtres, Jean-Pierre. Ils n'ont pas à rougir un instant, surtout Quentin Luy, diplômé en 2010 de la Polytechnic School of Alençon et qui a occupé les plus hautes fonctions chez un prestigieux torréfacteur puisqu'il était secrétaire quasi-général des Cafés Richard pour toute la région Normandie. Une réussite
bien.
Qui aurait pu lui monter à la tête.
C'est pas mal.
C'est faux, évidemment.
C'est un autre Normand.
Ah oui, lui aussi, il est vraiment Normand.
Ça, c'est la partie vraie.
C'est la partie vraie de l'histoire. Une réussite qui aurait pu lui monter à la tête, mais non, il continue de parler aux gens qui ne sont rien, dirait notre président. Ouais. Il va même à leur rencontre dans la rue.
Oui, et alors, les échanges de ce matin. Excusez-moi, je peux vous arrêter une minute? Oui, connaissez-vous Emmanuel Moulin? Pas du tout. Et si je vous dis Emmanuel Moulin, vous me dites rien, pas grand-chose, et c'est normal. Que représente pour vous ce métier de l'ombre? Vos réponses avant 16h30 dans ce micro-trottoir, complètement à la rue, made in Normandie.
Made in Normandie, président qu'Emmanuel Moulin est le secrétaire général de l'Élysée, actuel.
On n'est pas forcément
au courant. À vos côtés, Jean-Pierre Jouyet, je vous présente quelque chose d'assez unique, de profondément dépaysant. Quelque chose qu'en tout cas vous n'avez jamais vu en 4 ans au secrétariat général de l'Élysée. Et c'est normal, dans toute l'histoire de ce secrétariat, il n'y en a jamais eu une femme. Je sais que c'est assez incroyable, mais que voulez-vous, les temps changent. Les temps changent, visiblement plus vite en radio qu'en politique. Manon Mariani, chaque après-midi, vous nous dévoilez votre pièce jointe. De quoi s'agit-il aujourd'hui?
Eh bien, d'une école, l'école française de l'élite, celle par qui passent tous les hauts fonctionnaires de l'État. Vous y aviez étudié aussi, Jean-Pierre Jouyet, mais est-ce que vous êtes autant critique que certains autres anciens élèves? On vous posera la question en fin d'émission.
On n'a pas le droit de dire qu'on parle de l'ENA? Toujours
bien
cette notion de teasing, de suspense.
Mais vous aimez bien casser mes teasers. Mais...
C'est vrai, j'adore ça. Vers 16h30, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Élysée sans jamais oser le demander. À qui appartenait le palais de l'Élysée avant de devenir le siège de la présidence de la République? Qui est mort à l'Élysée? Qui est mort le pantalon baissé à l'Élysée? Le Zoom Zoom Test sera consacré au petites histoires qui ont agité la grande. Juste avant 17h, Lisa Perriot nous rejoindra, peut-être avec une tarte un peu mieux cuite que celle de la semaine dernière.
Oh, non, non, elle était très bonne.
C'était excellent. Juste que vous n'avez pas le citron.
C'était ça le problème, c'était cette tarte au citron. Après 17h, restez avec nous. Cyril lui s'enfermera en régie avec sa photo de Jacques Chirac, puisqu'on recevra un ex-maoïste, le grand reporter et écrivain Serge Chalandon, dont le dernier livre sur sa jeunesse militante est un des grands événements de la rentrée littéraire. Mais avant la littérature, la politique, Jean-Pierre Jouyet, est-ce qu'il est exagéré ou pas tellement de dire que le secrétaire général de l'Élysée est non pas l'homme le plus puissant de France, c'est le président, mais le deuxième homme le plus puissant de France?
C'est une des personnes les plus puissantes de France, c'est vrai, mais c'est une personne qui travaille dans l'ombre et qui travaille pour le président de la République et qui lui doit une loyauté
totale,
extrêmement grande, totale, et qui ne doit pas s'exprimer en dehors, souvent, du président de la République. Et il est certain qu'il a beaucoup de pouvoir, puisque c'est quand même lui qui assure toute la coordination de l'Élysée. Deuxièmement, qu'il prépare également tout ce qui est l'agenda politique du président de la République, qu'il également l'aide à préparer les conseils des ministres et qu'il assure les relations entre les équipes de l'Élysée, les différentes équipes ministérielles et aussi, bien évidemment, celle du Premier ministre.
Loyauté, mais donc aussi, on va le voir, grande marge de manœuvre quand même. En fonction de la personnalité de ce secrétaire général de l'Élysée, c'est quelqu'un qui peut impulser quelque chose quand même.
Oui, mais cela dépend des personnalités qui l'ont été et du couple, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'il forme avec le président de la République. Donc cela peut varier selon les présidences et selon les personnalités de chacun.
Si jamais je venais un jour à décéder avant lui, je tiens à dire solennellement à ce micro que je ne demande rien, sauf une chose, que Cyril Lacarrière ne rende jamais hommage à ma mémoire ici, sous aucune forme et sous aucun prétexte. En cause, les deux précédents dits du chanteur de One Direction, qu'il avait présenté comme le grand saut du jour, et le précédent Charlie Oleg, dont les proches ont dû apprécier le ton badin utilisé par Cyril pour saluer sa mémoire.
Alors rassurez-vous, Simone Garnier, Fabienne Hegal et Evelyne Leclerc sont bien vivantes. En revanche, Charlie Oleg, non, c'est terminé.
Parlez d'un être humain. Alors, et oui, c'était un être humain, Cyril, vous l'avez oublié.
Non, c'est pas bien.
Vous vous excusez,
non, mais c'est pas bien, oui, j'aurais pas dû rire à ça, c'est pas bien.
C'est la première fois de l'histoire que Cyril admet une erreur.
Oui, c'est vrai.
C'est un grand moment à l'antenne.
Il s'est pas excusé pour autant.
C'est vrai. Oui, c'est pas bien, c'est bon, on va y passer la nuit.
Racontez-nous, puisque c'est votre rôle dans cette émission, ne l'oublions jamais, la fonction de secrétaire général de l'Élysée, d'où ça sort?
Imaginez un poste sans costume officiel, si ce n'est un costume gris ou bleu marine, et une cravate, un poste sans élection, sans horaire non plus, un poste sans micro, sauf de temps en temps, un micro qui peut faire passer des messages, le temps parfois d'un sourire, n'est-ce pas Jean-Pierre Jouyet? À l'Élysée, il y a le président de la République et il y a lui, l'incarnation de l'homme de l'ombre. Et là, homme, ce n'est pas qu'un terme qui englobe tout le monde, puisqu'il n'y a jamais eu de femme à ce poste, vous avez commencé à le dire, la République c'est un truc de mec.
Et quand est apparue cette fonction, Cyril?
Eh bien, sous la Troisième République à l'Élysée, il y avait déjà des chefs de cabinet, mais pas encore de secrétaire général au sens où on l'entend aujourd'hui. La fonction a finalement été créée en 1939 par Albert Lebrun, le dernier président de la Troisième. Et s'il y en a ensuite eu sous la Quatrième, c'est véritablement avec l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1959 que le poste a changé de dimension. Une suite logique finalement avec la présidentialisation de la Cinquième République. Il y a eu 22 titulaires du poste, le record de longévité est détenu par quasiment le dernier en date, Alexis Kohler, 8 ans auprès d'Emmanuel Macron, et c'est sans doute lui qui a le mieux incarné ce titre officieux de vice-président ou de président bis qu'on accole parfois à cette fonction. Alors d'où ça sort le secrétaire général de l'Élysée? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Jean-Pierre Jouyet, vous avez été donc secrétaire général de la présidence de la République, puisque c'est le titre officiel de 2014 à 2017, nommé par François Hollande. Comment ça se passe cette nomination? C'est le président qui vous appelle personnellement et qui vous propose le poste?
C'est le président qui vous appelle et qui vous propose le poste, c'est exact. Il peut y avoir plusieurs candidats et le président choisit...
Ah, candidat, vous étiez candidat?
Il peut y avoir plusieurs, si vous voulez, personnes qui sont intéressées, puisque moi je suis arrivé, comme vous l'avez dit, en 2014. Il y en a à l'Élysée qui auraient souhaité être secrétaire général dont le président de la République actuel. Et après, c'est le président qui vous appelle et qui vous propose cette fonction, en compte tenu des liens personnels que vous pouvez avoir avec lui, ce qui a été mon cas avec François Hollande, et également de la connaissance que vous avez des administrations et de l'environnement politique national et européen.
Vous dites, lorsque je suis devenu secrétaire général de la présidente de la République début 2014, personne ne m'a expliqué la charge qui était la mienne, à l'exception du chef de l'État lui-même, qui m'a fait savoir ce qu'il attendait de moi. C'est pas du tout codifié comme fonction, c'est vraiment à la demande du président.
Exactement, c'est à la demande du président et ce n'est pas codifié. Vous n'avez aucun texte sur la fonction de secrétaire général. Cela a été rappelé, cela existe depuis longtemps et vous avez là des profils qui peuvent être très différents. Il y en a eu de très politiques, je pense à Dominique de Villepin et à Claude Guéant. Vous avez eu même un responsable politique qui a été nommé secrétaire général, c'était Pierre Bérégovoy sous François Mitterrand. Et puis, pour la plupart, ce sont des hauts fonctionnaires et des serviteurs de l'État qui sont nommés.
Le lien, il est plus fort entre le secrétaire général de l'Élysée et le président qu'entre le Premier ministre et le président ?
C'est une très bonne question. Il peut être parfois plus fort entre le président et le secrétaire général qu'entre le président et le Premier ministre, notamment parce que sous la Ve République, vous avez également connu des périodes de cohabitation.
Ah oui, la cohabitation, mais effectivement. Voilà.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il est la tour de contrôle de la Ve République. On continue de zoomer sur la fonction de secrétaire général de l'Élysée avec Jean-Pierre Jouyet, qui justement l'a été entre 2014 et 2017. Jean-Pierre, la seule occasion pour le grand public de voir et d'entendre le secrétaire général de la présidence de la République, c'est lorsqu'il annonce la composition d'un gouvernement sur le perron de l'Élysée. Pourquoi c'est au secrétaire général de l'Élysée de faire cette annonce et pas au Premier ministre ou au président de la République ?
Parce que c'est là aussi une tradition française et comme le gouvernement est présenté au président de la République par le Premier ministre et que nous sommes dans un régime qui est quand même dominé par la personne du président de la République, c'est au secrétaire général qui, comme je l'ai expliqué, fait également une liaison entre les équipes de Matignon et de l'Élysée à faire cette présentation sur le perron de l'Élysée.
Cyril en parlait à demi-mot tout à l'heure. Quelques mois après votre prise de fonction, vous vous présentez sur le perron de l'Élysée pour annoncer la composition du deuxième gouvernement en valse, dans lequel figure Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Vous l'annoncez dans un sourire à peine dissimulé. Qu'est-ce que c'est que ce sourire ? Qu'est-ce qu'il traduisait ?
Bien, il traduisait le fait que j'étais heureux qu'Emmanuel Macron devienne ministre de l'économie, puisque dans mes fonctions et dans les réunions que nous avions eues avec le président Hollande et Manuel Valls, j'avais proposé qu'Emmanuel Macron soit ministre à ce moment-là. Et par conséquent, j'ai fait une entrave au code qui existe lorsqu'on présente le gouvernement, c'est que vous ne devez avoir ni interruption ni sentiment exprimé, ce qui n'a pas été mon cas à ce moment-là.
Vous avez été puni, Jean-Pierre ?
Eh bien, par la suite, on a fait davantage d'annonces de changement de gouvernement par communiqué de presse que par le secrétaire général sur le perron de l'Élysée.
On l'oublie, mais Emmanuel Macron avait décidé de se mettre au vert à ce moment-là. Il avait quitté son poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est à ce moment-là que vous l'avez rencontré ?
Non, je connaissais Emmanuel Macron depuis 2005 et je l'ai connu au ministère des Finances lorsque je dirigeais l'inspection des Finances, puisqu'il était lui-même inspecteur des Finances, c'était un de mes adjoints à l'inspection des Finances.
Vous l'avez repéré, du coup, d'une certaine manière.
Et je l'avais repéré, j'avais vu son tempérament, j'avais vu son empathie, j'avais vu un certain nombre de choses chez lui.
Vous pensiez qu'il irait si loin ?
Je ne le pensais pas à l'époque et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, pour être tout à fait direct avec vous.
Non. Néanmoins, une fois président, il vous a un peu ghosté, c'est ce que vous racontez vous-même. Il ne répond plus à vos SMS. Vous dites « Je suis passé en l'espèce de 24 heures du statut de mentor à celui d'infréquentable, devenu gênant, encombrant. » Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ?
Ce que j'ai compris, c'est que j'étais trop proche de François Hollande et qu'il souhaitait lui-même assumer une sorte de rupture avec le hollandisme et que j'étais une des personnalités proches de François Hollande. Néanmoins, il m'a nommé ambassadeur au Royaume-Uni.
Vous parlez, ce qui n'est pas mal, c'est vrai, Jean-Pierre,
voilà.
Mais on vous parlait d'empathie, mais ça c'est un peu étrange parce qu'il aurait pu très bien publiquement, pas vous désavouer, mais en tout cas prendre vos distances tout en restant sympa avec vous dans la sphère privée. Répondre à
oui,
vos SMS.
Tout à fait.
Mais ça en dit peut-être quelque chose de son tempérament.
Mais ce que j'ai regretté, c'est effectivement de ne pas aller à l'Élysée, de ne pas partager, si vous voulez, un verre ou fait à la présidence de la République, compte tenu des années où nous avons travaillé ensemble.
Quentin.
Notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a été choisi plus vite que François Bayrou ne l'avait été. Dans ce genre de situation, quel est le rôle du secrétaire général de l'Élysée ? Est-ce qu'il met la main à la pâte ?
Alors, en ce qui concerne le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée n'intervient pas. C'est véritablement un choix personnel du président de la République. Et là-dessus, c'est le président qui décide. Il peut en parler avec son secrétaire général, mais de ce que j'ai vécu sous François Hollande, il n'y avait pas eu, lors des nominations de Valls ou en ce qui me concerne de Bernard Cazeneuve, de consultation du secrétaire général.
Et un mot peut-être quand même de Sébastien Lecornu. J'ai vu que vous étiez passé par le même lycée de Vernon en Normandie. Alors
oui.
C'est quelqu'un que vous connaissez un peu ?
C'est quelqu'un que je connais un peu, puisque nous étions effectivement dans le même collège à Vernon à des générations différentes, que je connais très bien Vernon, que j'ai de la famille à Vernon, et que je fréquente toujours quand je vais dans l'Eure, et avec qui je suis également au musée Claude Monet à Giverny.
Beaucoup de liens avec notre nouveau Premier ministre. Vous pensez qu'il est capable d'incarner une rupture ? C'est lui-même qui a utilisé ce terme-là. Alors que c'est un pur produit du macronisme.
Oui, mais il est malgré tout un très bon négociateur et c'est quelqu'un qui est ouvert à différentes sensibilités, comme cela a été noté. Et par conséquent, il fera très attention à, je crois, consulter un certain nombre de personnalités politiques en dehors du champ macroniste. Et comme il l'a indiqué, il souhaitait des ruptures de forme et de fond. Donc nous allons bien voir. Mais en ce qui concerne l'heure, il s'est toujours maintenu et il s'est toujours conforté en ayant véritablement de bonnes relations, ce que chacun souligne, personnelles, avec les uns et les autres dans des camps différents.
Lui aussi vient de Normandie, mais il est beaucoup trop à gauche pour avoir tapé dans l'œil d'Emmanuel Macron. Quentin, c'est dans la rue que vous êtes allé vérifier si les gens connaissaient l'existence déjà de ce poste de plus haut collaborateur du président de la République, finalement.
Et je marche non loin d'un marché qui s'installe, les odeurs de poisson, de poulet rôti mélangées à celles des moteurs des scooters qui passent sur le boulevard d'à côté. Ce monsieur, cheveux frisés grisonnants, lunettes argentées, sort de nulle part en me demandant c'est pour quelle émission ?
C'est pour Zoom Zoom Zen.
Je m'en doutais. Secrétaire général de l'Élysée. Bah, il est de Macron, enfin comme un secrétaire qui fait tout le travail en sous-main, enfin qui est au courant de presque tout quoi, et qui doit lui refaire remonter, sauf qu'il ne doit pas être au courant de ce qui se passe en bas, ici là, sur le trottoir.
Ah, je devrais peut-être moi postuler.
Ça serait peut-être pas mal, ouais. Parce que en plus, toi, tu vois plus de monde que lui, que tu interviews là, qui sont des gens aussi bien comme moi ou comme le monsieur qui arrive là.
Donc il y a quand même une forme de déconnexion, même sur ce poste de l'ombre.
Non, mais ça c'est clair, ça c'est clair.
Je vais envoyer mon CV.
Vas-y.
Quentin Luy, secrétaire général de l'Élysée. Ça sonne bien Jean-Pierre ?
Non.
Non. Vous essayez de ne pas être déconnecté de la base. Moi, pour ma part, j'allais toujours justement en Normandie pour voir quelles étaient les réactions par rapport aux décisions qui pouvaient être prises et tout cela. Et donc je le faisais.
Je marche dans Paris et sans y prêter attention, je me retrouve rue de Tournon, devant le numéro 4 où est écrit sur une plaque « Est mort dans cette maison le 26 septembre 2019, Jacques Chirac ». C'est ici que je croise Louis, retraité, à qui je fais lire la liste des anciens secrétaires généraux.
Ah, Jacques Attali, oui. C'est le nom qui me dit quelque chose, oui, en effet.
Secrétaire,
sur le plan politique.
Secrétaire général de l'Élysée sous Chirac, Dominique de Villepin.
Ah, de Villepin, bah oui, tout à fait.
Donc c'est plutôt un rôle de l'ombre.
C'est le Richelieu de l'époque, quoi.
Jolie référence, Richelieu. Ouais. Je décide de me rendre dans la pouponnière des hauts fonctionnaires Sciences Po à Paris. Ici, je tombe sur Hicham, à qui je demande de m'expliquer la fonction de secrétaire général de l'Élysée.
Je pense qu'on peut difficilement l'imaginer, hein, parce que c'est quand même des métiers assez chargés. Je sais qu'on a l'habitude, moi je viens du nord de la France, l'habitude de les appeler les planqués. Ces métiers un peu en backstage, du coup en arrière, ouais, qu'on voit moins que des métiers de premier plan, ministre, président, député, etc.
Comme avec Louise, faisons un tour des anciens.
Claude Guéant, oui, Claude Guéant, oui, surtout pour l'aspect communication, parce qu'il y a beaucoup il y a les scandales, notamment
avec l'affaire Kadhafi,
oui, exactement. À partir du moment où on est la personne qui administre, enfin qui s'occupe de l'agenda du président de la République, qui a aussi beaucoup un rôle de représentation, forcément des influences dessus. Ouais.
Claude Guéant, il n'a pas été épargné, hein.
Ah non, pas du tout, même par Sarkozy lui-même, il n'a pas épargné, même dans ses propos. Ouais.
Alors c'est vrai que c'est important de le noter, dans l'ombre, mais à l'abri de rien, niveau responsabilité. Hicham, il me confie que Sciences Po est une fabrique à élite, mais que niveau diversité des profils, c'est de mieux en mieux, 30% d'élèves boursiers, dont il fait partie, mais bon, ça ne suffit pas toujours.
Une déconnexion, oui. On parlait par exemple, ok, anecdote, hier soir, on parlait justement de salaire et tout à la sortie notamment, et on parlait de salaire d'un serveur en banlieue parisienne, enfin en région parisienne. Et moi j'avais évoqué le truc de avec des pourboires et tout, mais il y a des salaires qui se font 2005, voire plus. Attention, c'est pas la majorité, hein. Je suis bien conscient, moi je suis travailleur aussi à côté. Et la personne m'a répondu, mais 2005 c'est rien du tout. Alors que 2005 c'est beaucoup beaucoup plus que le SMIC, c'est deux fois le SMIC quasiment. Et
j'imagine que ça n'est pas d'un étudiant boursier.
Pas du tout.
La déconnexion commence peut-être déjà sur les bancs des écoles qui forment nos futurs dirigeants. Mes dernières rencontres sortent de cours.
Ina, Laura, nous on n'était pas à Sciences Po avant, donc c'est notre première année à Sciences Po. Et je crois que moi ce qui m'a quand même choquée, c'est à quel point c'était un petit monde. Que genre, on a beaucoup de gens connus, des hauts fonctionnaires de l'État qui viennent parler dans les amphithéâtres. Il y a toujours une petite blague, quand j'étais sur vos bancs, à votre place. Et j'ai l'impression qu'à la fac, on n'entend pas du tout parler de ses carrières ou de ses postes, alors qu'à Sciences Po, c'est vraiment...
Ah oui, il y a certainement sur les bancs actuels le futur secrétaire général de l'Élysée, quoi.
Exactement.
Et je leur apprends l'existence d'Emmanuel Moulin, donc le nouveau secrétaire général de l'Élysée qui a remplacé Alexis Kohler. Et nous regardons la liste des personnalités politiques qui ont occupé cette fonction.
C'est que des hommes. Ouais. C'est ça la conclusion qu'on doit. Mais j'imagine que c'est que des hommes blancs, assez bourgeois.
Si vous regardez la tête qu'a Emmanuel Moulin.
Ah ben voilà.
Un regard qui tue.
Né le 22 octobre 68 à Versailles.
Oh là là.
Un A qui dit bien à quel point elles sont blasées.
Bah, c'est chaud pour quand que dans une démocratie représentative, on n'est pas le corps des représentants qui ressemble aux électeurs, quoi.
Ça va changer.
Surprise, quoi. Avec Ina, comme président.
Avec la révolution.
Quand Ina va être président.
Avec demain, peut-être.
Sous moi, ça sera que des femmes et des personnes non binaires.
Et du coup, quand vous serez très âgé, ce sera les archives de l'INA.
Oh, la pas mal.
Vous n'êtes pas journaliste pour rien.
Sciences Po a beau mettre en avant ses 30% de boursiers, ça reste encore la même histoire, un entre-soi feutré qui produit souvent des profils clonés qui finissent vite par se dissoudre dans l'uniforme de costume bleu. On dit même bleu Macron maintenant.
Quentin, je suis un peu stupéfait par votre micro-trottoir parce que j'ai l'impression que les choses n'évoluent pas. J'ai déjà raconté ça à l'antenne, je vais faire vite, mais moi j'ai fait Sciences Po et oui. Je suis arrivé de ma province et j'étais un peu émerveillé d'être là, bah c'était voilà. Un peu incroyable.
Oui, comme oui. Vous.
Vous aussi, oui. Mais vous n'avez pas trouvé comme moi, alors vous à votre époque, moi à la mienne et aujourd'hui toujours pareil, qu'il y a à Sciences Po, et ensuite j'imagine encore plus à l'ENA, des gens qui sont formatés pour être là depuis toujours et qui trouvent ça absolument normal d'être là, comme je disais, ils étaient parfaitement habilités à y être, et qui déroulent comme ça leur carrière. Et c'est vrai que du coup, au final, c'est la plupart des hauts fonctionnaires ne sont pas très représentatifs. Des gens normaux, entre guillemets, du corps électoral dans son ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire, que ça n'évolue pas?
C'est vrai. Moi, j'ai connu ça comme vous, et c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand je suis arrivé à Sciences Po, les gens me regardaient comme quelqu'un que je venais de ma province, et j'en ai connu qui faisait partie de l'élite et tout, et qui faisait véritablement Sciences Po pour faire l'ENA, et qui était dans un milieu très, très parisien.
Mais ça donne des discussions lunaires. Il dit qu'il parle d'un salaire d'un serveur en banlieue parisienne, et il dit 2500 euros, parce que lui aussi travaille à côté et la personne en face lui dit 2500 euros c'est rien, là ça parle vraiment de la déconnexion qu'il peut y avoir parfois entre nos élus et le peuple.
Non, mais c'est vrai que là il y a une déconnexion que l'on sent et qui est forte entre les élus et le peuple, d'où la défiance qui peut exister aujourd'hui à l'égard des responsables politiques ou administratifs.
pour en revenir à la fonction du secrétaire général de l'Élysée, malgré son poids politique, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une fonction où vous n'êtes pas élu, c'est-à-dire que vous êtes désigné par le président de la République. Est-ce que c'est une espèce d'anomalie quand même dans nos institutions ?
Non, je crois que lorsque le président désigne quelqu'un, je vous l'ai dit, qu'il connaît et qui a essentiellement une expérience administrative et une expérience également politique. Mais il peut accompagner politiquement le président sans être élu. Et par conséquent, il y en a certains, comme vous l'avez vu, qui ont été élus après et qui ont fait de la politique après. Un de ceux qui est resté le plus longtemps, Jean-Louis Bianco, c'était son cas.
C'est un tremplin, en fait.
Ça peut être un tremplin, effectivement. Et ça l'a été pour pas mal.
Vous n'avez pas envie de vous lancer en politique ?
J'ai eu envie de me lancer en politique, mais je ne l'ai jamais fait sur le plan électoral. J'ai laissé cela à d'autres membres de ma famille.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, est notre invité cet après-midi. Jean-Pierre, pendant 4 ans, vous avez vécu dans le sein des saints de la Ve République, mais aujourd'hui est un grand jour pour vous, puisque vous pénétrez à présent dans le sein des saints du gai savoir, plus communément appelé le Zoom Zoom Test. Un quiz
Quel privilège.
Au cœur,
bienvenue.
Un privilège, effectivement, un quiz au cœur de l'Élysée aujourd'hui, évidemment. L'Élysée qui, au-delà du symbole, est d'abord ce que la famille Kretz qualifierait de produit remarquable, rare à la vente, avec un gros effet waouh. Et pour cause. Bienvenue au palais de l'Élysée, au cœur du 8e arrondissement. Dans un écrin de verdure, cet ancien hôtel particulier saura séduire les amateurs d'art de vivre parisien par ses volumes harmonieux et ses extérieurs fleuris. Il conviendra particulièrement aux familles nombreuses avec une pièce pour chaque jour de l'année, soit 365, une pièce pour chaque semaine de l'année, soit 52, ou une pièce pour chaque humoriste de Zoom Zoom Zen, soit 37 pièces.
Ah.
Vous voyez ce que ça fait, 365 pièces,
Mais je pense aux toilettes.
C'est-à-dire,
il y en a peut-être beaucoup.
Beaucoup de toilettes.
Salle de bain,
on dit une quarantaine.
Tout ça.
Très bien. Eh bien,
là, je pense qu'il y en a moins que ce que vous pensez.
Okay.
En termes de,
Alors Jean-Pierre, je vais vous donner un conseil. Il fallait sortir de votre bureau. Il y a 365 pièces, dont 90 en sous-sol.
Oui. Mais vous m'avez parlé des toilettes et tout.
Ah, d'accord, sur les toilettes, il y en a beaucoup moins. D'accord, beaucoup
moins.
Il n'y a qu'une toilette.
11 000 mètres carrés en tout et 320 pendules. 320 pendules remontées par un maître horloger tous les mardis matins. Car oui, Cyril, contrairement à chez IWC, à l'Elysée, ils ont encore un horloger. Mais attention, top. L'Elysée est aujourd'hui le siège de la présidence de la République et, comme vous le savez, la résidence du président depuis la Deuxième République. Pourtant, il a été construit en 1720, bien avant l'invention des présidents de la République et même de la République elle-même. D'après vous, avant que le comte d'Evreux n'achète le terrain pour faire bâtir sa résidence parisienne, qui avait-il en lieu et place du palais de l'Élysée ? Une ferme, avec des poules, des cochons et des chèvres ? Des jardins maraîchers et même une léproserie ? Ou une église où le marquis Loïc de la Carrière venait souvent se confesser ?
Mais, j'ai dit avant.
Des jardins maraîchers, une léproserie, vous l'avez dit avant.
Oui.
C'est une bonne réponse. Effectivement, bravo Manon. En 1720, le mètre carré n'était pas très cher dans le quartier de l'Élysée, puisqu'en effet, on y trouvait des jardins maraîchers et une léproserie. Mais les choses vont changer avec le comte d'Evreux, qui va donc faire construire le palais de l'Élysée grâce à l'argent de son beau-père, le richissime homme d'affaires Antoine Crozat, qui lui a apporté une dot de 2 millions de livres. La dot, Manon, c'est ce que votre papa, Ange Mariani, devra verser à votre mari pour qu'il accepte de vous supporter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Une belle histoire, car l'argent de cet Antoine Crozat, première fortune de France sous Louis XIV, avait été honnêtement gagné. En reprêtant à l'État l'argent des impôts qu'il collectait lui-même, génie. En faisant du marché noir avec les colonies espagnoles, pas con. Ou en cartonnant avec sa start-up de négrier, hashtag entrepreneuriat, hashtag RSE.
Ah.
Et si c'était les trois, mon capitaine, il n'est pas excessif de présenter Antoine Crozat, l'homme qui finançait la construction de l'Élysée, comme le Quentin, lui, du XVIIIe siècle. Comme notre camarade, il était à l'affût de la moindre opportunité commerciale, finissant par peser plus lourd que Bernard Arnault himself, avec une fortune estimée en euros actuels à 300 milliards. Retenez donc que l'Élysée...
Ce qui est pour l'époque, c'est dingue, du coup.
Oui, évidemment. Ouais. Retenez que l'Élysée, symbole de notre belle République, a donc été construit avec l'argent de la traite négrière. Mais faisons un bond dans le temps. À la rencontre d'un de nos plus grands présidents, Félix Faure. Issu d'un milieu modeste, cet ancien tanneur s'est hissé à la force du poignet jusqu'au sommet de l'État. Élu président en 1895, il meurt à l'Élysée, 4 ans plus tard, dans des circonstances particulièrement tragiques, puisque il trépasse d'une congestion cérébrale après 3 heures d'agonie. Il décède dans les bras de sa maîtresse, le pantalon sur les chevilles, où il s'est étouffé avec du gras d'entrecôte.
B. Je suis devant.
Madame Stenel.
Il y avait... Il y avait une subtilité.
A et B.
Oui.
A et B, bonne réponse de Manon. Et oui, car oui, Quentin, on peut mourir de...
La bouillard.
Vous l'appelez comme vous voulez, Quentin.
Ce qui est assez triste.
Vous l'appelez comme vous voulez. C'est donc après avoir passé un doux moment en compagnie de sa maîtresse, Marguerite Steinhal, que Félix Faure s'est éteint le 16 février 1899, un décès officiellement dû à une congestion cérébrale. Alors que, selon les sources, il s'agissait plutôt d'une overdose d'aphrodisiaque, car ce bon vieux Félix avait, comme on dit publiquement, le drapeau qui flottait. Résultat des courses.
Le drapeau qui flottait.
Oui, c'est comme ça qu'on disait. Un Maccabée, et le mot célèbre de Clémenceau. Il se croyait César, il n'est mort que Pompée.
Très drôle.
Bien trouvé, parce que Clémenceau, c'était le meilleur pour les jeux de mots. Et un bon gros buzz pour Marguerite Steinhal, une salonnière, comme on disait à l'époque, qui, suite à cette affaire, va hériter du surnom bien chicose de la Guiguita deux coups, la pompe funèbre ou la grande sulfateuse.
Mais c'est la B, effectivement.
Elle est connue même de Quentin. La pompe funèbre, on savait rire à l'époque. Maintenant, on ne peut plus rien dire, mais on peut chanter. 10 secondes de Patrick Sébastien. Allez Jean-Pierre, avec nous.
Non. J'allais commencer à chanter. Autant, en plus,
excusez-nous, l'autre jour, on a fait une émission sur Patrick Sébastien et on a découvert... Non, mais le pont est super, mais il n'est pas diffusable sur France Inter. Dernière question, puisqu'on ne peut plus rigoler. Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont authentiques? Les galettes de l'Elysée ne contiennent pas de fèves, car il est impossible qu'un roi ou une reine soit désigné dans la demeure du président. La longueur totale des couloirs correspond au trajet Ozoir-la-Ferrière-Pont-au-Combeau, où la femme du président Poincaré a été enlevée par un chimpanzé dans les jardins de l'Elysée.
Les trois.
C'est sûr. Le reste, peut-être.
C'est sûr. Pas de fèves à l'Elysée.
Les trois.
Non.
C'était A et B.
A et C. Je ne sais pas. A et C. Bonne réponse de Jean-Pierre. Oui. Oui, pour la B.
C'est enlevé par un chimpanzé.
Parce que effectivement, il n'y a pas de galette.
C'est fou, ça, quand même. Ça va loin.
Il n'y a pas de fèves, quoi.
Il n'y a pas de fèves. Ça n'a plus aucun intérêt.
Bah oui. Enfin bon. On joue pour gagner.
Peut-être la frangipane. Très belle victoire de la République et de Quentin. Bravo. Oui. Non, pardon. Excusez-moi, fausse voix pour Quentin. C'est terrible. En régie, on
m'a soufflé
le mauvais nom.
Oh là là. Regardez-moi ça.
Il fut, les amis, la tour de contrôle, le président bis, l'homme le mieux informé de France, Jean-Pierre Jouyet, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, est toujours avec nous. Jean-Pierre, dans votre dernier livre, vous parlez de l'héritage du général de Gaulle, général qui disait du secrétaire général de l'Élysée qu'il était au centre de tout, au courant de tout. Est-ce que on peut même dire que parfois le secrétaire général de l'Élysée est informé avant le président et que c'est lui qui décide quelles informations il faut communiquer au président?
Non, il communique toutes les informations. Il est parfois informé d'éléments que le président n'a pas, donc il lui transmet, mais il n'a pas tous les éléments politiques que le président de la République peut avoir. Et également, en fonction de sa formation, il s'intéresse à des dossiers qui peuvent être différents de ceux du président, justement, pour le décharger d'un certain nombre de problèmes.
Vous, c'était quoi, sous Hollande, vos dossiers de prédilection?
Moi, je travaillais essentiellement sur tout ce qui était économie et finance et tout ce qui était Europe.
Donc c'est là que vous preniez la main un peu et que vous pouviez le plus aider François Hollande.
Exactement.
Est-ce que c'est au secrétaire général qu'il échoue la tâche cruelle, complexe, de réveiller le président au milieu de la nuit ou de décider de prendre la décision de qu'est-ce qui nécessite qu'on réveille le président de la République pour le mettre au courant d'une information?
Là, c'est au secrétaire général qu'il appartient effectivement, lorsqu'il le juge utile, de réveiller le président pour lui dire qu'il y a eu tel et tel accident ou tel drame. Mais je dois dire que malheureusement, dans les drames que nous avons connus et qui sont les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan, comme vous le savez, le président était déjà sur le terrain et donc était déjà sur place et donc bien évidemment au cœur de ce qu'il fallait faire.
On parlait du nombre de pièces incroyables à l'Élysée, 365. Il est où le bureau du secrétaire général de l'Élysée par rapport au président?
Le bureau du secrétaire général est près de celui du président. Vous avez le bureau du président, vous avez à côté une salle de réunion pour
avec
les
des
réunions
toilettes, je suppose,
informelles qui s'appelle le salon vert.
Le salon vert.
Et à côté, vous avez le bureau du secrétaire général. Et ce qu'il y a de plus, cocasse, ou ce qui vaut certaines anecdotes, c'est qu'en revanche, le président et le secrétaire général reçoivent les invités qu'ils ont dans la même antichambre, si vous voulez. Donc, ce qui fait que parfois, le président s'aperçoit que le secrétaire général reçoit tel ou tel, et le secrétaire général, lorsqu'il va pour recevoir un de ses invités, s'aperçoit de qui reçoit le président de la République.
Vous avez une phrase terrible dans votre livre, vous dites « Le chef de l'État s'apparente de plus en plus à un VRP de luxe, parcourant le monde au service de nos grands patrons. » C'est devenu ça pour vous, le rôle du président de la République ? C'est triste comme constat.
Ça a évolué compte tenu de le fait que le président s'intéresse beaucoup aux affaires économiques et qu'il a des liens avec les dirigeants d'entreprise. Cela a été moins le cas avec François Hollande, cela a été déjà le cas avec Nicolas Sarkozy, ça l'est aujourd'hui avec Emmanuel Macron, mais je dois dire que c'est également une responsabilité importante parce que vous défendez l'économie française et vous défendez les entreprises qui participent à la richesse du pays et qui participent au bien-être également de nos concitoyens.
Quentin ?
Qu'aurait fait le général de Gaulle s'il s'était retrouvé face à une telle assemblée sans majorité ? Vous en parlez dans le livre du général, et à votre avis, comment il aurait géré une telle situation politique ?
Eh bien, le général de Gaulle a toujours fait en sorte de garder les majorités, des majorités absolues. Et le général de Gaulle a fait deux dissolutions, mais deux dissolutions qu'il a gagnées, à la différence de ce qui s'est passé en 2024. Et il avait indiqué que s'il perdait justement les élections de 1962 liées à ce qu'il avait proposé comme élection au suffrage universel, eh bien, à ce moment-là, il se demandait comment une cohabitation pourrait fonctionner.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une école, l'ENA, l'École Nationale des Administrations, l'une des écoles françaises les plus prestigieuses qui assure la formation des hauts fonctionnaires du pays, notamment des ministres ou des présidents de la République. Elle est le symbole d'une certaine élite rêvée par beaucoup et critiquée par d'autres. L'ENA a été fondée en 1945 par le général de Gaulle et Michel Debré dans un pays en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. L'idée est claire, former des fonctionnaires compétents issus de tous les milieux sociaux pour moderniser l'administration et démocratiser l'accès aux plus hauts postes. 80 élèves sont formés chaque année. Pendant plus de 75 ans, elle devient un passage obligé pour tous ceux qui veulent faire de la politique. Les énarques se retrouvent dans tous les cabinets ministériels, dans les grands corps de l'administration, à la Cour des comptes, au Conseil d'État et évidemment jusqu'à l'Élysée. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande, Emmanuel Macron, tous sont passés par l'ENA. Ceux qui occupent le poste de secrétaire général de l'Élysée ne sont pas en reste. On peut citer Dominique de Villepin, Alexis Kohler ou encore Emmanuel Moulin.
Mais vous le disiez maintenant, l'ENA a aussi été la cible de beaucoup de critiques.
Eh bien oui, elle est notamment accusée de renforcer le poids d'une élite fermée sur elle. Les critiques la qualifient aussi d'une école hors sol. Peu de diversité, peu d'élèves venant de milieux modestes, peu de mélange. On parle de caste d'énarques qui ne restent qu'entre eux, se marient entre eux et font des enfants futurs énarques. Plusieurs anciens énarques ont eux-mêmes émis des critiques sur leur propre école. Jacques Chirac en parlait comme d'un symbole d'une élite qui a failli. Laurent Fabius comme d'un système malsain et Emmanuel Macron comme d'un moule à pensée unique, comme si après y être passé, tous avaient le besoin de critiquer cette école. En 2021, on le sait, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'ENA qu'il a lui-même fait pour la remplacer par l'Institut National du Service Public. Une mesure surtout symbolique, prise après le mouvement des Gilets jaunes qui en avait fait une cible à abattre.
Merci Manon. Jean-Pierre Jouyet, oui, cette on ne va pas dire suppression, cette transformation de l'ENA, est-ce que c'était vraiment plus symbolique qu'autre chose ou est-ce que...
Je pense que l'ENA a eu le mérite, et vous l'avez rappelé, quand même, de favoriser la méritocratie et de faire en sorte que des personnes comme moi qui n'avaient aucun fonctionnaire ou serviteur de l'État dans leur famille puissent accéder à certaines responsabilités. Donc ça, je ne l'oublie pas. Mais ce qui est vrai après, c'est que ça s'est davantage resserré et que les énarques se voient essentiellement entre eux. Et là, il y a un véritable problème, même si vous allez sur le terrain et qu'ils forment également des fonctionnaires qui sont proches des citoyens. Je pense par exemple aux préfets et aux gens qui sont dans les différents départements ou régions. Bon, ben là, vous avez des fonctionnaires de proximité également.
France Inter. Zoom, zoom, zen.
On pensait que le petit carnet était la seule production littéraire de Pierre Courade. On avait tort, puisqu'en effet, au hasard d'une balade dans la section invendue du sud de la Fnac, je suis tombé hier sur un ouvrage intrigant, signé Pierre Courade et intitulé « Adios les bibaros ». Sous-titre « Partir autour du monde, c'est possible ». L'histoire inspirante de deux bobos du 11e qui décident un jour de découvrir ce qu'il y a au-delà du cornichon. Ce restaurant branchouille aux chaises en formica auxquelles ils étaient auparavant accrochés comme des bulots. Une belle leçon de vie à découvrir aux éditions Artaud. Je crois qu'il reste quelques exemplaires disponibles.
Merci Mathieu pour la
question. Mais pour l'heure, Pierre, il est temps de nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a parlé de l'éminence grise de la République, le secrétaire général de l'Élysée. Pour en savoir plus sur cette fonction, qui de mieux que quelqu'un qui a occupé le poste, Jean-Pierre Jouyet, ancien bras droit de François Hollande. Le haut fonctionnaire nous a expliqué son rôle stratégique auprès du chef de l'État, à la fois vigie, tour de contrôle. Il devait tout savoir pour conseiller au mieux le président. Ainsi, la première qualité d'un secrétaire général de l'Élysée, c'est d'être totalement loyal envers le président de la République, d'autant que le secrétaire général de l'Élysée à la fois coordonne les services de l'Élysée, établit l'agenda politique du président de la République, aide à préparer les conseils des ministres et est en lien direct avec Matignon. Un job de l'ombre donc, mais on peut voir et entendre le secrétaire général de l'Élysée à chaque remaniement. C'est lui qui égrène les noms des membres du nouveau gouvernement sur le perron de l'Élysée. Parfois, il participe même directement à la composition du gouvernement. Jean-Pierre Jouyet a par exemple susurré le nom d'Emmanuel Macron à François Hollande, mais ce pouvoir n'est pas sans poser question. Le secrétaire général de l'Élysée n'est pas élu et aucun texte ne codifie son action. À l'Élysée, ça s'appelle un secrétaire général. Ici, ça s'appelle un appui.
J'ai l'impression que...
Vous filmez Pierre, c'est votre titre.
C'est votre titre.
Oui, je filme Pierre.
Pour quelle raison?
Parce qu'il était très... Je sais pas, il était mignon, il était concentré.
Oh, c'est gentil. Très bien. On parle un peu de gentillesse dans cette émission.
C'est mon ami quand même.
Jean-Pierre Jouyet, on parlait de François Hollande. Vous étiez ami avec lui avant. Est-ce que vous êtes toujours ami avec lui aujourd'hui?
Tout à fait.
Toujours.
Oui. C'est toujours mon plus proche ami.
Ah, toujours plus votre proche. Plus proche ami, carrément.
Oui, bah, écoutez, je le dis. Je ne sais pas si ça va lui faire plaisir à lui, mais pas moi, demander, donc je vous le dis.
Aujourd'hui, nous recevons également, alors que je le dise bien cette fois,
Christine Carnet de Chèques, c'est slave. Je suis la directrice générale de la banque d'affaires Avaris Bank.
Christine, je crois savoir que vous connaissez bien Jean-Pierre Jouyet, notre invité, c'est
mais
ça?
Oui, mon JP, je suis tellement contente de voir. Attends, bouge pas, j'ai un truc pour toi, tu vas pas être déçu de bienvenue. Tu vas voir Vincent, c'est mon assistant, c'est lui qui a mon sac. Vincent, il n'entend rien. Bah, t'as pas bougé en tout cas. Ça me fait... Et moi alors, tu trouves que j'ai changé depuis tout ce temps, toutes ces années?
Non, pas du tout. Ah.
Pardon Christine pour cette question, mais vous semblez quand même très jeune. Vous avez quel âge?
C'est très déplacé comme question. Si vous croyez que je vais répondre, j'ai 68 ans. 68, je n'ai pas bougé, n'est-ce pas? Regardez cette grande jouvencelle. Merci, Jupiter. Est-ce qu'il y a un truc qui tombe? Il n'y a rien qui bouge, évidemment. Vous allez me dire, mais Christine, quel est ton secret? Bien sûr, l'argent. Voilà. L'argent, évidemment, ça conserve. Et puis une petite crème pour bébé qu'il y a dans mon sac également, je vais vous montrer. Vincent, il n'entend rien.
Mais et donc, comment vous connaissez avec Jean-Pierre Jouyet?
Alors, tu veux que je le fasse, je m'en occupe. Merci, JP. Bon, en fait, on s'est rencontrés pendant un déjeuner d'affaires. J'étais en train de finir de déjeuner, il a apporté mes affaires. C'était le serveur du restaurant, et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su, j'ai percuté coup de foudre, j'ai dit, écoute, hé garçon! Comme ça, j'ai fait, garçon, c'est quoi votre nom? Il m'a dit, Jean-Pierre, madame. Je lui ai dit, maintenant, ce sera JP, et désormais, tu bosses pour moi, puis depuis, on s'est plus quitté. Enfin, sauf le moment où t'as bossé un petit peu à l'Élysée, sacré père, écoute. Oh là là, JP, c'est le mec que tu peux appeler à 4h du mat en lui disant « JP, mon fils a écrasé des piétons avec la Maserati. Il est rentré bourré du Pachamama, est-ce que tu peux nous aider ?» Et puis lui, il le fait, quoi. JP, il est là. Il va à l'éléphant bleu, il nettoie ta bagnole, il paye les familles des victimes. Un amour, ce JP. C'est super d'avoir un JP. Vous avez un JP, vous, Mathieu ?
Non.
Vous avez un Cyril, oui. C'est un bon modèle, mais ça vaut pas. Ça vaut pas un JP. Un JP, il est unique. Et maintenant, je dois composer avec un Vincent. Vincent ! Vincent ! Il est lent, Vincent. Oh. Depuis qu'il a fait son AVC, il est lent. Mais c'est vous qui avez mon sac depuis tout à l'heure, Manon. Vous me dites rien. Bah alors, vous voulez me voler de l'argent ? C'est très grave ce qui se passe, Manon. Vous aimez voler de l'argent ?
Vous me faites peur.
Venez bosser dans ma banque. On a besoin de gens comme vous. Tenez, attendez. Voici ma carte. Oh là là. C'est un billet, évidemment.
C'est vrai.
C'est plus que le cachet de ta chronique.
Évidemment, c'est cadeau. Ça me fait plaisir, JP. Soyez sérieux un petit peu. Je suis là, c'est pour toi. En fait, je viens te remettre une médaille pour tes mérites, la médaille du mérite, exactement. Vous savez, pour tous tes services rendus, puis aussi parce qu'en fait, s'il n'avait pas été ambassadeur au Royaume-Uni, j'aurais jamais pu avoir des places pour aller voir le concert d'Oasis. D'ailleurs, je t'ai ramené un autographe d'Oasis lui-même, tu vois. Bravo pour ta médaille signée Oasis. Voilà.
Très bien.
Si c'est pas le vrai Oasis, tu vois. Ah, il est remarquable, mon JP. Vous savez, il a pas peur d'enfreindre les règles, JP. Hein. Lui, il était quand même général, secrétaire général de l'Élysée, mon JP. Hein. Alors qu'on le sait tous, secrétaire, à la base, c'est quand même un métier de femme. Je le rappelle. Ah oui, je le sais, j'ai 3 secrétaires. Que des gonzesses. Et lui, il est allé, JP. Il a fait fi du jugement, ouais. Il a pas peur, JP. Il fait fi, JP.
Voilà.
Mais reviens à la maison, s'il te plaît. J'en peux plus de Vincent, en plus avec son fauteuil. L'enfer, je vous jure, hein. Je suis perdue sans toi, moi, JP. Qu'est-ce que je fais ? Tu sais, tu pourrais écrire tes bouquins, là, tes livres. C'est quoi ton dernier livre déjà ? C'est le colonel, l'ombre du colonel, voilà. Et bah, tu pourrais écrire l'ombre du colonel 2, si tu veux. L'ombre du général, bah, tu vois, je te connais, mon JP. L'ombre du général, l'ombre du capitaine Crochet, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. En tout cas, il n'y aura plus d'entourloupe, je te le promets. Il n'y aura plus de poison, il n'y aura plus besoin de braquer des clients pour qu'ils signent des contrats. Tu n'auras plus besoin de filmer des journalistes France Inter à leur insu quand ils discutent avec des hommes politiques. C'est dit. Tu pourras écrire tes livres à la maison, mon JP. Tu auras ta chambre à toi, à soi, comme Virginia. Voilà, Virginia Woolf. Ils n'ont pas la ref, ils sont incultes. Mais moi, je sais. Moi, je t'ai compris, JP. Tiens, ta médaille, elle est là. Regarde, hop là. Tiens, ta médaille. Homme de l'ombre. Mais toujours dans ma lumière.
Oh, magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Lisa Perriot.
Merci
beaucoup. La semaine prochaine, dans Zoom Zoom, c'était bien, mais c'était long, puisque là, on n'a plus le temps. Il faut dire merci à Jean-Pierre Jouyet, l'ombre du général, et non pas du colonel, bien sûr, De Gaulle et ses successeurs. Qu'ont-ils fait de son héritage ? C'est chez Albin Michel. Merci encore, Jean-Pierre Jouyet, d'avoir été
avec nous. Merci à vous. Zoom Zoom Zen.